Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri, Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les élections présidentielles en Tunisie. L'universitaire sans parti politique Kais Saied arrive en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec 19% des voix selon des résultats préliminaires portant sur 27% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'instance des élections ISIE. Selon ces résultats, M. Saied devance l'homme d'affaires en prison Nabil Kaouri qui obtient 15% des voix. Pratiquement au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourou, 13,1%. Les partisans de Nabil Kaouri réclament la libération de leur chef. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nabil Kaouri est au second tour, a indiqué une responsable de son parti, Kalb Tounes. Nous espérons qu'il sera libéré demain et qu'il puisse mener campagne de façon équitable, a déclaré l'épouse de M. Kaouri, Salwa Asmaoui, devant la presse avant de lire une lettre écrite par son mari arrêté pour blanchiment et fraude fiscale. Nous espérons pour ce second tour que l'injustice cesse et que la compétition électorale soit équitable envers les deux candidats, avec un respect total de la Constitution, des lois, de la volonté des citoyens et des électeurs, a-t-elle lu. Le premier candidat à la magistrature suprême présenté par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, arrive troisième. Pour sa part, l'instance en charge d'organiser les élections a indiqué que le taux de participation avait atteint 45%. Les résultats officiels préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'ISIE.
On reste en Afrique du Nord, en Algérie. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé dimanche que l'élection présidentielle aurait lieu le 12 décembre, respectant minutieusement la suggestion du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays depuis la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. Le général Gaïd Salah avait réclamé le 2 septembre que la date de la présidentielle devant permettre d'élire un successeur à M. Bouteflika soit annoncé le 15 septembre pour que le scrutin ait lieu avant la fin de l'année. Et ce, malgré les protestations du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février. Les manifestants s'opposent à la tenue rapide d'une présidentielle, n'y voyant qu'un moyen pour le système de se maintenir à la tête du pays. Ils exigent le départ des figures au pouvoir, en particulier Abdelkader Ben Salah et le général Gaïd Salah. Afrique centrale maintenant, nouveau drame fluvial en République démocratique du Congo. 36 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et de passagers sur le fleuve Congo dans la région de Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé dimanche la police qui fait état de 76 rescapés. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le bateau en provenance de Maïndombé dans l'ouest du pays et à destination de Kinshasa a fait naufrage dans la commune de Maluku, située à une centaine de kilomètres du centre-ville, à un endroit où le courant du fleuve est fort. Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC en raison de la vétusté des embarcations, de leur surcharge en passagers et fret et de l'absence de balisage. Les bilans sont aggravés par le fait que dans la majorité des cas, les passagers ne portent pas de gilet de sauvetage et la plupart ne savent pas nager. La RDC ne compte que très peu de routes praticables. Les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et les lacs. Au mois d'août, au moins une quinzaine de personnes sont mortes dans un naufrage d'une pirogue motorisée à Bukavu sur le lac Kivu dans l'est du pays. Fin mai, le naufrage d'une péniche avait causé la mort d'au moins 32 personnes sur le lac Maïndombé dans l'ouest du pays. Mi-avril, le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu avait endeuillé 142 familles selon le président Félix Tshisekedi, sans que l'on en sache le bilan exact.
La lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun, 6 soldats camerounais ont péri vendredi dernier dans l'extrême nord du pays dans une attaque des islamistes contre leur poste militaire à Souéram, non loin du lac Tchad et de la frontière du Nigeria. 9 autres soldats ont été blessés dans cette incursion menée en fin de soirée par un commando islamiste équipé d'armes légères, selon un officier de l'armée camerounaise et 2 hauts responsables de l'administration de la région. Et puis au Tchad, l'ancien chef de l'État, Lol Mahamat Choua, qui a dirigé le pays par intérim pendant 4 mois en 1979, à la fin de la première guerre civile, est décédé. C'est ce qu'a indiqué sa famille dimanche, âgé de 80 ans. Mais ce choix s'est éteint à son domicile de N'Djamena samedi, des suites d'une longue maladie. Des obsèques nationales ont lieu aujourd'hui dans la capitale tchadienne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les violences en Afrique de l'Ouest maintenant, la Croix-Rouge internationale a annoncé que le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes portées disparues en raison de conflits. L'organisation humanitaire estime leur nombre à au moins 22 000, un chiffre que beaucoup considèrent inférieur à la réalité. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, au Nigeria.
Selon l'agence humanitaire, c'est le plus grand nombre de personnes disparues enregistrées auprès du CICR dans un seul pays. L'insurrection du groupe islamiste Boko Haram a fait des millions de déplacés. Alain Manassé est un activiste des droits humains basé à Borno, fief de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
Dans le nord-est, il n'y a pas de mesures envisagées, pas de documentation pour les personnes disparues. Et je suis certain que chaque famille doit avoir une personne ou un parent qui est soit porté disparu, soit tué. Et ceux qui sont aussi portés disparus, personne ne peut te dire si certains sont encore en vie ou d'autres sont morts.
Près de 60% des Nigériens portés disparus étaient des mineurs au moment de leur disparition. Adjara Suleiman, 32 ans, vit dans un camp déplacé près d'Abuja depuis que 6 membres de sa famille, dont ses 4 enfants, sont portés disparus il y a 4 ans.
Quand ils sont venus, on ne pensait pas qu'ils allaient sélectionner des gens entre nous pour les amener. Ils ont dit à mon père, sa femme et les enfants de les suivre. Ou alors, ils vont tuer tout le monde.
Les familles dans le nord-est du Nigeria sont souvent séparées lorsqu'elles fuient des attaques. Abela Idrissa, aujourd'hui 18 ans, et son frère fuyaient une attaque de Boko Haram contre leur village en 2016, quand ce dernier a été enlevé.
Nous étions en train de marcher ensemble et tout d'un coup, les éléments de Boko Haram sont arrivés. On a demandé à tout le monde de rentrer dans sa maison, qu'ils étaient à la recherche des enfants pour les envoyer à l'école. Cela fait déjà 3 ans que mon frère a disparu. Je ne suis pas content.
Parmi les personnes portées disparues, 112 lycéennes enlevées à Chibok sont toujours introuvables. Bouki Shonibari est membre du groupe Bring Back Our Girls qui se bat depuis 5 ans pour leur libération.
Celles-ci sont celles dont on connaît les noms et dont on peut identifier les visages. Mais il y a plusieurs autres que l'on ne connaît pas. Donc même si les efforts du groupe Bring Back Our Girls sont jusqu'ici vains, notre lutte continue parce que notre engagement est de s'assurer que toutes les filles retrouvent leur liberté. Sans cela, notre combat va se poursuivre.
En 2018, le Nigeria a été classé au 3e rang des pays les plus terrorisés au monde par le Global Terrorism Index. Le conflit dans le nord-est du Nigeria a aussi fait des dizaines de milliers de morts et perturbé considérablement les activités politiques, économiques et sociales. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Ici aux États-Unis, le président de l'Iran, Hassan Rouhani, n'a pas prévu de rencontre avec son homologue américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le point avec Michel Joseph.
Nous n'avons pas prévu cette rencontre et je ne crois pas que ce genre de choses aura lieu à New York où s'ouvre mardi la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré Abbas Mousavi, porte-parole de la diplomatie iranienne, sur une chaîne de télévision d'État iranienne. Dans un contexte de tensions grandissantes entre Washington et Téhéran, la Maison-Blanche a déclaré dimanche que M. Trump n'excluait pas l'hypothèse d'une rencontre avec M. Rouhani, assurant que le président américain allait y réfléchir. Ces déclarations intervenaient après une attaque de drones contre 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite, revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, soutenues par Téhéran, qui font face depuis 5 ans à une coalition armée menée par Riyad. Washington a attribué la responsabilité de l'attaque à Téhéran en l'accusant d'avoir mené une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.